moment de notre semaine sur les politiques patrimoniales. Aujourd'hui, mardi, le documentaire est signé Stéphanie Thomas et Anne Fleury et nous plonge dans l'eau des rivières de Creuse, là où la laine des tapisseries d'Aubusson est rouille depuis plusieurs siècles. Hier, l'historien Dominique Poulot et Edith Vallée nous ont parlé d'histoire du patrimoine, mais aussi de matrimoine. Demain, nous approcherons la façon dont les ethnologues se sont emparés de cette notion même de patrimoine. Et aujourd'hui, le documentaire de Stéphanie Thomas et d'Anne Fleury nous emmène dans la Creuse, à Aubusson, là où a ouvert cet été une cité internationale de la tapisserie qui raconte la longue histoire d'au moins 5 siècles de politique de la tapisserie dans cette ville de Creuse. Au fil des siècles et des moutons, les tapisseries d'Aubusson, ce documentaire jusqu'à 10 heures dans la fabrique de l'histoire, signé Stéphanie Thomas et Anne Fleury, avec les témoignages et les analyses de Bruno Itier, d'André Chandernagor, de Thomas Ball, de Nicole Despazzi-Chevalier, de Thierry Terrade et de France-Odile Perrin-Crinière.
Les filatures sont tout le temps auprès de l'eau. Ici, en particulier à Feltin et à Aubusson et dans la Creuse, il y a énormément d'eau.
L'entreprise doit exister depuis les années 1910, je crois. Les machines étaient moins importantes que les machines aujourd'hui. Elles étaient un peu plus petites et donc elles étaient entraînées avec la force de l'eau. On avait une turbine qui entraînait les machines. Uniquement avec la force de l'eau. Donc au départ c'était une fabrique de capes de berger. Ensuite ça s'est transformé en filature. Je suis la 4e génération à continuer donc la filature sur Feltin.
Et là la rivière elle vous sert encore à quelque chose aujourd'hui ?
Aujourd'hui maintenant c'est moins important qu'à une certaine époque. Bon, on peut encore l'utiliser pour remplir nos bacs de teinture, mais bon, quand le temps est clair, on peut utiliser l'eau de la rivière.
Aubusson, au fil des siècles et des moutons. Depuis plus de 500 ans, la petite ville d'Aubusson, située au cœur de la Creuse, dans le Limousin, n'a jamais cessé d'élever des moutons, de filer la laine, de la teindre et par-dessus tout de réaliser des tapisseries. L'origine de ce savoir-faire n'est pas vraiment établie. Des maîtres lissiers ont tissé des voyages fantastiques peuplés de griffons, de licornes et autres dindons venus de loin, au milieu des aristoloches et des verdures. Malgré de nombreuses crises, les ateliers d'Aubusson ont résisté et ce savoir-faire est inscrit depuis 2009 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce qui a permis, 7 ans plus tard, l'ouverture cet été de la nouvelle cité internationale de la tapisserie, dont Bruno Itier est le conservateur.
Au premier plan, des combats d'animaux. Là, sur la partie gauche, un chien qui attaque un loup. Sur la partie droite, un lion qui attaque une biche. Tout le plan central qui est occupé par ces énormes feuilles à enroulement, feuilles de chou. Dans des textes anciens, on voit parfois parler de feuilles renversées, et qui hébergent en leur centre un bestiaire fantastique, avec des griffons, avec on va y trouver des licornes, on va y trouver des animaux étranges, et on va y trouver par exemple des dindons, qui viennent d'être découverts depuis quelques décennies à peine en Amérique. Donc les premières représentations du dindon circulent en Europe depuis les années seulement 1540. Donc ça a encore vertu d'animal fantastique. Et puis l'arrière-plan quitte cet univers sauvage et là on retrouve un univers humanisé qui est marqué notamment par des architectures assez typiques. Alors certains veulent y voir des paysages des Flandres. Ici, des érudits locaux ont voulu y voir des maisons du Moyen-Âge de la région d'Aubusson. Bon, c'est pas évident.
La tapisserie, elle est née dans les Flandres.
André Chandernagor.
Il y avait beaucoup de moutons, mais en plus de ça, ils avaient
un monopole commercial de tissage de la laine. Hein, bon. Ils avaient aussi des seigneurs très riches. Les ducs de Bourgogne étaient riches comme Crésus, bien plus riches que le roi de France. Hein. Et donc là, la tapisserie, elle est née dans les Flandres. Hein. Les tapisseries flamandes, du reste, sont extraordinaires. Il y a eu, à un certain moment, un Aubusson a épousé une noblayonne flamande. Elle aurait amené un ou deux flamands avec elle, qui ont introduit la tapisserie parce que on trouvait les moutons, donc la laine, et qu'il a été découvert que l'eau de la Creuse collait très bien avec la nécessité de la teinture. Donc c'est à mon avis logique. On voit pas d'autre. Aussi bien à Aubusson qu'à Feltin. Alors ils se disputent l'origine, est-ce que c'est Feltin, est-ce que c'est Aubusson. Alors la querelle, elle est ancestrale, entre les fuses et les grôles plates. Ah, les fuses en patois local, c'est les sabots. Et les grôles plates, c'est les chaussures plates.
L'histoire de la tapisserie d'Aubusson commence quand, Bruno Etier ?
Par l'écriture, elle commence au milieu du XVe siècle. C'est là qu'on a les premières mentions dans des actes notariés, où on voit à Feltin traces de fabrication de couvertures et de tapisseries de laine. Ce qui nous laisse à penser qu'on est peut-être, comme pour beaucoup d'activités du Massif central, sur une activité qui commence domestique et qui, progressivement, va se spécialiser, va chercher à connaître les goûts de la clientèle et d'une clientèle qui est de plus en plus loin. Et on voit comme ça, en quelques décennies, se densifier un réseau commercial, des produits qui s'adaptent à la mode et qui sont capables de répondre aux commandes. C'est une constante dans le Massif central. On trouve ça pour les arts du feu à Limoges, avec l'émail qui va envahir toute l'Europe. C'est pareil pour la dentelle du Puy à partir de la Renaissance, qu'on va retrouver en Amérique du Sud. C'est pareil avec les couteaux à tiers, la rubannerie à Saint-Étienne. Cette capacité qu'on a eue ici d'être une sorte de zones artisanales très très développées, avec des gens capables de créer un réseau commercial très dense et de s'adapter aux demandes d'une clientèle qui pouvait être très vaste et très variée. Donc ces premières mentions au 15e, quand elles nous parlent de fabricants de tapisseries qui sont aussi fabricants de couvertures de laine, ça nous laisse à penser qu'on est peut-être bien toujours dans cette même logique d'une activité domestique à la base et qui va devenir beaucoup plus importante.
Nicole de Passy-Chevalier, est-ce que, au fil des siècles, l'utilisation de la tenture, de la tapisserie, évolue dans une demeure ?
Alors, on a toujours dit que les tapisseries au Moyen-Âge étaient faites pour réchauffer les murs des châteaux. Bon, c'est vrai, ça peut couper les courants d'air. À Versailles, on mettait des portières armoriées aux armes de France et de Navarre pour couper les courants d'air. Enfin, ça, c'est un rôle très important. Et puis, au Moyen-Âge et à la Renaissance, la grande noblesse va transporter ses tapisseries d'un château à un autre, puisqu'ils bougeaient d'un château à un autre selon les saisons, selon la chasse. Quand il y a des échafaudés, les tapisseries font partie des prises de guerre. Bon, à l'époque aussi, on peut considérer que certaines tapisseries racontent toute une histoire. Alors là, je retourne au XVIe siècle, avec la magnifique tenture de David et Bézabé de Bruxelles, XVIe siècle, qui est conservée au musée des Couans. C'est le cinémascope de l'époque.
Quand on regarde cette licorne sur fond de mille fleurs, elle tient un blason. Et donc, on voit que la famille qui s'est faite représenter sur cette pièce-là à la fin du XVe siècle, elle a cherché à avoir quelque chose d'ostentatoire, qui raconte aussi une histoire, parce que cette famille-là, c'est la famille de Chabannes, une grande famille de l'histoire de France, qu'on retrouve aux croisades, qu'on retrouve compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, qu'on va retrouver probablement pour le commanditaire de cette mille fleurs, compagnon d'armes un peu plus tard de François Ier pendant les guerres d'Italie. Donc, on cherche à raconter son histoire et à mettre en scène son rang social. Là, on fait porter le blason de la famille par une licorne, symbole de pureté, représentation symbolique du Christ. Donc on cherche à obtenir quelque chose par le statut de l'œuvre.
C'était incroyable. Il y avait des évêques, des cardinaux qui avaient une collection de tapisseries absolument suffocante, si l'on peut dire, qui avaient toujours en permanence une vingtaine de tapisseries exposées et qui changeaient leurs tapisseries tous les 15 jours.
Mais où est-ce qu'ils ont trouvé leur source d'inspiration, du coup, ces Aubussonnais ?
En fait, les sources d'inspiration, elles circulent. C'est concomitant au développement de l'imprimerie. Donc, l'imprimerie se développant, elle permet de faire circuler l'estampe qui permet d'amener l'image qui va être tissée ici. Et c'est une des caractéristiques qu'on trouve sur les premières tapisseries du XVIe siècle ou du début du XVIIe, où on va avoir comme ça des figures qui sont assez savantes et qui semblent comme appliquées sur un fond qui, lui, a souvent des éléments de naïveté, des éléments de rusticité. Et ce qui montre bien qu'on utilise l'estampe pour avoir les personnages principaux, pour avoir le cadrage de la scène, et puis après, des choses qu'on se transmet d'atelier en atelier pour tout ce qui est du domaine du fond. Et on voit comme ça ce qui est de la part de la gravure d'origine et ce qui est de la part de l'invention de l'huissier. Ici, c'est le cas, par exemple, pour le tablier du personnage principal. Tout ça, c'est de l'interprétation de l'huissier, probablement à partir d'une étoffe qu'il avait à disposition et dont il a cherché à reproduire le dessin en tapisserie.
Donc la laine est aspirée par ce tuyau, donc elle rentre dans cette première machine qui s'appelle un batteur.
Thierry Terrade.
Et ensuite, toujours par système de tuyaux et de ventilation, elle va tomber dans la deuxième machine qui s'appelle un loup. Donc là, c'est un cylindre avec des petites dents. Et cette machine donc, va transformer la fibre de laine en petits flocons de laine. Ça va ouvrir la matière pour la préparer au cardage. Ensuite, toujours par un système de tuyaux et de ventilation, la laine va monter à l'étage. Nous avons les autres machines.
Vous allez voir ?
Oui. Donc l'étape suivante, ça va être l'assemblage. Et donc on peut assembler 2 fils, 3 fils, 4 fils. En principe, on va jusqu'à 6 fils. Là, on fait juste l'assemblage. Et donc les fils sont parallèles. Donc après, on aura encore l'opération de retordage de ces fils qui ont été assemblés.
Ici, quand on regarde, on est au début du XVIIe siècle, dans cette tenture en 5 panneaux qui nous raconte un chapitre de la Jérusalem délivrée de Torquato Tasso, en l'occurrence le chapitre consacré à l'histoire d'amour de Renaud et de la princesse Armide, là en fait on déroule une narration. Et le client qui va acheter cette tapisserie, par le biais de cette tapisserie, il va avoir au mur de sa pièce l'histoire de ses héros préférés qui vont être là, pratiquement en grandeur nature. Et puis il y a aussi un autre phénomène qu'il y a avec ces pièces où il y a toujours beaucoup de verdure, c'est que quelque part, c'est l'été et c'est le feuillage toute l'année. Renaud est dans les bras d'Armide au cœur de son jardin, il y a même une tonnelle couverte de roses. Donc c'est un univers décoratif particulièrement agréable et qui colle aux préoccupations intellectuelles du moment. Le réseau commercial qui faisait circuler l'estampe et le livre illustré était très bien organisé par le réseau des colporteurs et des marchands. Donc l'actualité littéraire, que les livres soient édités à Paris, à Venise ou à Augsbourg, arrivait très vite ici. Je crois que c'est dans les années 1660 qu'un atelier au Buissonnet du nom de Matteron, on sait par des pièces d'archives qu'en une seule année, ils avaient tissé 7 exemplaires d'une tenture en 5 pièces justement sur l'histoire de Renaud et Armide. Donc oui, ça avait beaucoup de succès et ça se tissait de façon intensive. Donc effectivement, il y a l'estampe, il y a des toiles roulées qui peuvent arriver. Il y a des dessins, mais il y a aussi à Aubusson et dans la région de la Marche un vivier d'artistes qui travaillent, qui vont adapter les petits formats aux grands formats, mais qui vont aussi créer des choses. Beaucoup de gens parlent d'une petite Florence ici, où il y avait en permanence des artistes, des galeristes, des éditeurs et toute une foule qui circulait.
Louis XIV et Colbert ont créé des manufactures royales. En 1663, c'était évidemment dans le but de centraliser les productions artistiques.
Nicole de Passy-Chevalier.
Donc il y a eu d'abord la manufacture royale des Gobelins qui rassemblait les ateliers qui se trouvaient à Paris. Il y avait d'une part des ateliers d'origine flamande, des flamands que Henri IV avait fait venir au début du siècle à Paris et qui tissaient sur des métiers horizontaux, c'est-à-dire sur des métiers de basse lisse. Et il y avait les ateliers d'origine parisienne qui étaient dans les galeries du Louvre et qui tissaient sur des métiers verticaux, donc les métiers de haute lice. Ils réunissent tout ça. Donc ça, c'est la première manufacture royale. Et au départ, cette manufacture doit travailler pour le roi, pour la famille royale et pour les cadeaux que le roi destinait aux ambassadeurs ou évidemment aux souverains étrangers. Et alors, comme il ne souhaitait pas que la noblesse dépense son argent dans les Flandres, on crée ensuite, 2 ans plus tard, la manufacture royale de Beauvais, qui tisse également des tapisseries très belles et très fines, plutôt pour la noblesse, pour le haut clergé, pour les étrangers aussi. Et un peu plus tard, Colbert décide aussi de créer les manufactures royales d'Aubusson et de Feltin. Quelle est la différence par rapport à ces manufactures précédentes qui sont très centralisées? C'est que les ateliers d'Aubusson et de Feltin seront des ateliers séparés qui auront le droit de mettre sur leurs portes l'écriteau « manufacture royale ». Et ces ateliers vont tisser des tapisseries moins fines parce que leur clientèle sera moins fortunée. Donc la petite noblesse, la bourgeoisie, le clergé, le moyen clergé, on va dire. En fait, ils sont aussi capables que les autres de tisser des tapisseries très fines et très belles, mais une tapisserie est fine avec 2 éléments, le nombre de fils de chaîne au centimètre et la façon dont la trame est tassée. Voilà. Donc, plus elle est fine, plus elle sera longue à réaliser, plus elle sera chère.
Est-ce qu'à Aubusson, à Beauvais ou à Paris, on pouvait tisser les mêmes sujets, les mêmes cartons?
C'était jamais exactement la même chose. Par exemple, on va prendre Beauvais et Aubusson. À Beauvais, en 1750, François Boucher donne les modèles d'une tenture chinoise qu'on appellera la seconde tenture chinoise, parce que à Beauvais, à la fin du XVIIe siècle, il y avait déjà eu une première tenture chinoise d'après 3 autres peintres. Donc, dans une tapisserie, il y a 2 étapes dans le modèle. Il y a le modello, le modèle d'origine, le petit patron, et ensuite il y a le carton à grandeur d'exécution. Boucher a fait des modélis, justement pour la tenture chinoise, ces petites peintures absolument ravissantes sont conservées au musée de Besançon. Et ensuite c'est un autre peintre qui s'appelle Dumont, Joseph Dumont, qui va réaliser les grands cartons à grandeur d'exécution. Et il le fera pour Beauvais, et il va les refaire aussi pour Aubusson. Mais il va y avoir des variantes parce que le nombre de coloris est moins important, parce qu'il va rajouter des petites fantaisies de son cru, il va ajouter sa note personnelle et on reconnaît très bien la tenture chinoise d'Aubusson de celle de Beauvais.
C'est vrai que les manufactures royales, qui vont devenir ensuite manufactures nationales, elles travaillent pour le secteur public, le pouvoir souverain ou... aujourd'hui, la République, en fait. Donc, le développement de cette tapisserie est lié à la virtuosité, à une recherche d'un absolu dans la qualité, la gamme chromatique, la finesse des fonds, etc. Pour Aubusson, la grande qualité, elle est dans la recherche d'une efficacité, avec une écriture technique qui permette de faire vite et bien. Donc, on va développer comme ça des trucs, des tours de main. Par exemple, dans cette pièce-là, qui est des années 1740, on voit l'eau qui cascade, qui bouillonne et qui part, et on a l'onde là qui s'étend sur une zone un peu plus calme. Quand on regarde cette zone un peu plus calme, on voit que l'onde, elle est faite en tissant des bandes parallèles de couleur pure, de 1,5 cm à 2 cm de large, et en les juxtaposant, de loin, optiquement, on a l'impression d'un miroir d'eau qui ondule, alors qu'en fait, techniquement, c'est allé extrêmement vite pour le réaliser, parce qu'on a fait des aplats qu'on a tissés les uns à côté des autres très très vite. On retrouve ça, je pense à une pièce ici d'après Louis Lagrenet, où on a Vénus aux forges de Lemnos, et Vulcain tend un bouclier en bronze poli, et dans ce bouclier se reflète la toge rouge. Et la toge rouge, on la représente pas, son drapé avec 30 ou 40 couleurs dans un camaïeu de rouge, c'est juste 3 nuances de rouge et des hachures verticales. Et ça fonctionne comme dans la gravure, ça procède par mélange optique, et ça fonctionne de façon brillante, avec une écriture technique qui permet de travailler vite et bien.
Donc seuls les maîtres tissaient les visages et les chairs, c'était plus long, c'était plus difficile et c'était mieux payé. Je connais pas très bien la répartition des tâches, mais il y a quelque chose que j'ai lu qui m'a émue et frappée, c'est au moment de la fermeture des Gobelins en 1694, on manque d'argent parce que les guerres ont ruiné un petit peu le budget. Donc pendant un moment, on va être obligé de fermer les Gobelins, qui réouvriront en 1699, hein, c'est une période de 5 ans. Et là, on lit ce que vont devenir ces lissiers. Un tel, apprenti depuis l'âge de 12 ans, va partir aux armées. Un tel, apprenti depuis l'âge de 20, très bon au visage, très bon au visage, va partir aux armées. Je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup que ces hommes qui avaient un tel savoir-faire soient deviennent de la chair à canon. Hein.
Alors, si on vient à votre cas, vous avez été pratiquement mis dans le bain de la tapisserie par vos aînés.
Oui, je voulais pourtant pas faire un tapissier, je voulais faire un menuisier. C'est curieux, hein. Et puis quand il s'est agi d'entrer en atelier, ma mère m'a dit, oh, les outils de menuisier, ça coûte trop cher. Fais dans un tapissier. Alors j'ai fait un tapissier parce que les outils
Denis Dumontet,
moins cher.
Vous voyez, ça 1980. Fait
Et vous aviez quel âge alors ?
12 ans, 13 ans. 13 ans. Pas tout à fait 13 ans. C'était en 1918.
Et vous avez commencé avec un contrat d'apprentissage ?
Ah non, il n'y avait pas de contrat, ça ne se faisait pas.
Ça se faisait pas.
On ne voulait pas nous attacher. Tu sais bien que les tapissiers étaient très libres, ils changeaient de métier, de maison, comme de chemise.
Et qu'est-ce qu'on faisait comme tapisserie ? À l'intérieur de l'atelier.
Beaucoup de sièges.
Des sièges.
Beaucoup de garnitures de sièges, oui. À cette époque-là, ça se faisait beaucoup. Il y avait une grosse clientèle américaine.
Je ne sais pas, on est là, je ne
te suivais pas à l'époque. Mais à 20 ans, je commençais à avoir mon métier bien en main. Commençais à faire des chairs.
Et vous vous souvenez d'un ouvrier particulier qui vous a accompagné?
Ah oui, un chef d'atelier, un homme chargebeau. Alphonse, parce qu'ils étaient trois frères, tous les trois excellents lissiers. Comme chez nous, il y avait trois frères de Montet, on était assez forts tous les trois.
D'accord.
Tous les trois, on faisait les chairs. Faire les chairs, c'était un sommet du métier. Hein.
Est-ce que le fait d'aborder un travail difficile vous a rendu plus exigeant vis-à-vis du salaire ?
Ça s'est fait automatiquement. J'ai quitté une maison. Je gagnais 3 francs de l'heure, je suis rentré chez Amo, on m'a payé 5 francs de l'heure. Vous voyez, ça comptait, hein.
Ah oui.
Mais là, je commençais à me défendre.
C'est ça.
Oui, oui.
Bruno Itier.
Les premiers documents commerciaux dont on dispose qui remontent au XVIIIe siècle, il y a des mentions assez amusantes dessus où il est dit que la manufacture est au courant de l'actualité artistique et que les dessins des meilleurs décorateurs, architectes et peintres sont livrés tous les 3 mois dans les ateliers d'Aubusson.
Donc c'était comme des catalogues, on savait ce qui se passait et on pouvait choisir sa tapisserie sur catalogue.
À la fin du XVIIIe siècle, pour ce qu'on va appeler les tapisseries à alentour, c'est-à-dire ces très belles tapisseries très décoratives, où on va reproduire sur tout le champ de la tapisserie une sorte de trompe-l'œil, du motif purement décoratif, et régulièrement des médaillons qui peuvent être carrés, ronds ou ovales. Et à l'intérieur, on va avoir une petite chinoiserie, une petite scène de genre ou une fable de La Fontaine. Ça se choisissait chez l'intermédiaire parisien. On choisissait son fond sur des gouaches. Les arts décoratifs nous déposent une série de gouaches d'après Ranson, où on voit très bien toutes ces variations très subtiles dans ce qu'on appelait ces alentours. Et les médaillons sont représentés en grisé. Donc d'après sa gouache, on choisissait son fond. Et ensuite, on avait des portefeuilles d'estampes. Et on allait dire, ah ben, je veux une série de scènes galantes d'après Boucher, je veux une série de chinoiseries ou je veux une série de fables de La Fontaine. Et donc, on pouvait comme ça constituer sa tenture à la carte.
Voilà, donc là nous rentrons donc dans l'atelier de teinture. Donc ici ce sont des petites cuves pour faire les teintures à la main pour les petites quantités. Et on monte tout doucement en température pour que le colorant monte dans les échelons de laine. Donc là on atteint de la matière brute Donc au départ, on avait un bain bien bleu. Et une fois que le colorant est monté dans la fibre, à la sortie de la teinture, là on obtient de l'eau très claire.
C'est que ça a bien pris alors.
Voilà, c'est que le colorant est bien monté dans la matière.
Techniquement, il s'est passé quelque chose pendant le 19e siècle. Il y a eu la révolution industrielle. Pour la première fois au Aubusson, on ne va plus parler d'atelier, mais on va parler de manufacture. Il y a des moyens, il y a une capitalisation de l'entreprise. Donc, la relation entre le lissier et le teinturier va basculer. Sous Ancien Régime, le teinturier est là, il est indépendant et on dépend de lui pour les couleurs. On assortit, on parle d'ailleurs des métiers d'assortisseurs qui, à partir du carton, vont être capables d'aller chez le teinturier, choisir les couleurs pour faire réaliser la tapisserie. À partir du 19e et de ces grandes manufactures, comme il y a des capitaux, on va pouvoir stocker les couleurs. Les teinturiers sont employés à demeure par la manufacture, ne sont plus des indépendants, et ils vont faire leur métier, ils vont teindre. Et ils vont teindre avec beaucoup de nuances, beaucoup de couleurs, beaucoup de laine, beaucoup de soie. Et je vais être un peu trivial, mais lâcher un lissier dans un magasin de couleurs, c'est comme lâcher un enfant dans un magasin de bonbons. Plus il y en a, et plus il va en prendre. On a une pièce comme la Fée des Bois, qui est au-dessus, là, à l'étage, une pièce des années 1900. Le nuancier de base, c'est 50 couleurs. Mais on a fait faire une analyse très détaillée de cette pièce-là, et on se rend compte qu'au total, il y a près de 200 couleurs, il y a 150 couleurs qui se surajoutent, et parfois, c'est juste pour faire même pas un centimètre carré. C'est-à-dire qu'on voit bien que le lissier avait la possibilité, une flûte, une petite navette avec une laine d'une autre couleur, hop, il l'a prise. Et qu'il est allé se promener dans le magasin des laines, et qu'il a récupéré, tiens, là, je vais mettre deux ou trois verres supplémentaires, et on en rajoute, et on en rajoute. Et on se retrouve avec une tapisserie au cours du 19e siècle de plus en plus fine, de plus en plus colorée, et on est vraiment dans cette logique de peinture tissée où on cherche, par le tissage, à approcher la matière picturale. Ça va poser problème pour les artistes qui vont remettre en cause certains canons de l'esthétique et de l'art au tournant 19e-20e.
C'est à Angers en 1938 que vous avez eu cette révélation, ce choc, devant la tapisserie de l'Apocalypse.
Jean Lursa, 1964.
Oui, incontestablement, c'est une des grandes dates de mon existence. Je me trouvais dans cette ville d'Angers, dans un musée superbe, devant une des grandes œuvres de toute l'histoire de l'art français, transportée, c'est-à-dire qu'elle avait quitté son lieu d'origine. Elle avait été tissée auparavant pour le duc d'Anjou et elle était suspendue dans une des grandes églises d'Angers. Or, il a été possible, intact, de l'amener dans un autre lieu, ce qui, en somme, explique l'énorme différence qu'il y a entre la fresque et la tapisserie. La fresque, elle est immobile, elle est liée au destin du mur, tandis que la tapisserie est mobile.
Vous savez que la fresque ne tient pas dans les pays du Nord, n'est-ce pas, les pays humides, et la tapisserie a toujours été la grande peinture murale des pays du Nord, et spécifiquement de France, de Flandre, pas de toutes ces régions-là.
Marcel Gromaire, 1959.
Il y a aussi un avantage, c'est qu'elle est transportable, c'est une chose que l'on peut promener d'un endroit à une autre, ce que faisaient les gothiques, n'est-ce pas. Je crois qu'il est difficile de trouver muralement une matière plus chaude, plus vivante que la laine.
Que l'univers soit un tissu dans lequel nous sommes tissés, c'est cela que nous rappelle chaque geste du lissier. C'est l'énergie du monde qui conduit le fil que les parcs seuls ont pouvoir de rompre. Qu'il se rompt, qu'il s'achève, par un nœud, l'ouvrier rétablit le circuit sans quoi s'arrête l'inspiration.
Et donc là, avec la Dame à la Licorne, on a l'exemple d'une tapisserie qui peut être un modèle pour une plastique qui corresponde au goût des artistes de l'époque, des fauves, des post-impressionnistes, des nabis. Quand on regarde la gravure des nabis, on voit des gravures en noir et blanc, très tranchées, très fortes. Et la tapisserie peut peut-être répondre à ces questions-là. pour beaucoup d'artistes, la réalité de la tapisserie, elle est là. Dans ce gros grain, dans cette identité textile très prégnante et dans cette gamme chromatique extrêmement réduite qui montre qu'avec peu de couleurs, mais des teintures solides, franches, on va pouvoir toucher à une plastique de la tapisserie. La Dame à la Licorne, c'est 4 fils de chaîne au centimètre. Et on n'est pas sur des 200 ou des 300 couleurs à l'intérieur, on est sur 24 couleurs.
Donc c'est un retour aux sources, en fait, grâce à la Dame à la Licorne.
Oui, mais ça ne revient pas comme ça, parce qu'on en est à plusieurs siècles déjà de peinture tissée, donc d'une toute autre approche du médium. Donc il faut tout réinventer. Ici, c'est un nouveau directeur recruté au niveau de l'École nationale d'art décoratif d'Aubusson, une école qui avait été créée en 1884 par l'État, qui s'appelle Antoine Marius Martin, qui est un post-impressionniste, qui est graveur. C'est très important parce que lui, il sait que pour faire tout un jeu de gris sur une gravure, il n'a pas besoin d'avoir 10 ou 20 encres avec des niveaux de gris différents. Il sait qu'il va pouvoir, par un jeu de hachures, obtenir toutes les subtilités qu'il veut avoir avec juste encre noire et papier blanc. Et donc, très vite, Antoine Marius Martin est convaincu qu'il faut, pour rénover cet art de la tapisserie, le mot est déjà là, le verbe rénover est déjà là, il faut simplifier le carton. Les cartons sont des cartons en couleur, souvent peints à l'huile. Il faut bannir ça et revenir au carton de l'ancien régime qui était simplement des grisailles. Il faut revenir au gros grain et au pot de couleur de la tapisserie du Moyen-Âge. Et il faut tisser des artistes de son temps. Donc il va rechercher ses amis qu'il connaît dans certaines galeries parisiennes où lui-même expose, ou au Salon d'automne ou au Salon des indépendants.
Comme qui ?
Jules Milzingue, Louis Valta, Émile Bernard. Et avoir des artistes qui pensent la tapisserie quand ils ont le pinceau en main. C'est-à-dire qu'ils aient des éléments de la technique du tissage, notamment comment un lissier passe des couleurs, par ce qu'on appelle les battages, c'est-à-dire qu'il va faire arriver sa zone de couleur pure d'un côté, et puis la nuance d'à côté, qui peut être très franche, très tranchée par rapport, il va obtenir à distance un mélange optique. Quand on est prêt, on voit des espèces de zigzags de couleurs pures qui s'interpénètrent. Quand on est à distance, on voit une couleur pure à gauche, une couleur pure à droite, et entre les deux, une zone de transition progressive qui vient de la largeur des hachures. Et là, la tapisserie, la rénovation de la tapisserie du XXe siècle, on peut dire que pratiquement elle est inventée.
Donc à Aubusson, on travaille en basse lisse, c'est-à-dire qu'on est sur des métiers horizontaux.
France Odile, Perrin-Crinière.
Donc on a une chaîne tendue entre les deux rouleaux, une chaîne qui est en coton. Cette chaîne est répartie donc suivant la largeur de la tapisserie, parce qu'on fait toujours les tapisseries en une seule fois. Donc la tapisserie est divisée en lames de 40 cm. Sur chaque lame, on a une ou deux paires de marches qu'on entend le bruit sonore derrière. C'est comme des marches ou des pédales, on appelle
des
ça.
Des voilà. Piano, sauf voilà. Plein.
Qui écartent les fils, un sur deux. Et le tissu donc va se fabriquer en faisant le croisement entre la trame et la chaîne. La trame étant la couleur. On n'avance pas vite et en même temps il faut tout le temps. Donc c'est aussi un travail très intellectuel parce qu'on est quand même obligé de garder en tête la forme qu'on est en train de faire pour pas perdre le fil et qu'une courbe ne soit pas brisée, qu'elle soit harmonieuse. Donc quelquefois on va mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines à finir cette forme. Et donc il faut tout le temps la garder en tête pour qu'elle soit juste et toujours anticipée.
Et quand Marius Martin va prendre sa retraite en 1930, il va publier quelque temps après une sorte d'article testament où il va dire un peu tout ce qu'il a fait. Et il montre à partir d'une pièce qu'on a, qui avait été exposée en 1925, La fête foraine, d'après Simon. Il montre comment il a réussi son travail. C'est-à-dire qu'un mètre carré de ce type de tapisserie tissée à Beauvais coûte à peu près 39 000 francs du mètre carré. Le même mètre carré tissé à Aubusson avec sa technique, c'est 3 000 francs. On est sur un rapport de 1 à 14 pratiquement. Ce qui veut donc dire que le lissier va pouvoir obtenir un salaire décent, intéressant. Que le chef d'entreprise va pouvoir dégager une marge qui va lui permettre d'investir dans de nouveaux cartons. Et il va y avoir de nouveaux cartons parce que, troisième point, les artistes ont là un médium qui correspond à une nouvelle plastique de la tapisserie qu'ils attendent depuis plusieurs années. Alors, L'école va travailler, l'école va inviter des artistes, elle va inviter les frères Vera, André et Paul Vera, qui sont des décorateurs importants. Elle va inviter Dufy, elle va inviter pas mal d'artistes comme ça à venir explorer les potentialités du médium. Mais la grande bascule, elle va se faire en 1937, quand le maître lissier François Tabard, avec le directeur de l'école, celui qui a succédé à Antoine Marius Martin, Élie Mingona, on l'a évoqué, vont inviter Jean Lursa à venir à Aubusson.
La majorité des ateliers et la majorité de la clientèle des ateliers d'Aubusson à ce moment-là, c'est-à-dire des acheteurs, c'était l'écroulant, n'est-ce pas ? La tapisserie, c'était une agonisante.
Jean Lursa.
Alors je suis arrivé là, évidemment, ça n'a pas été très commode, seulement comme dans tout lieu, même... En perdition, si j'ose dire, ou en délabrement, il y a quand même toujours des individus qui ont conscience que tout n'est pas perdu, vous comprenez, n'est-ce pas ? Et il y avait un homme, notamment, François Tabard était un homme qui possédait un atelier qui avait été considérable, 300 ouvriers et dessinateurs, un siècle et demi avant. Bon, mais l'atelier était à l'état plus que squelettique, n'est-ce pas ? Seulement, il possédait cet atelier de père en fils depuis 1637, c'est le plus vieil atelier du monde. Or, cet homme ne voulait pas, savait bien, vous se rendez compte que la tapisserie, ça marchait plus, etc. Mais au lieu de démissionner, il se cramponnait, il faisait des sacrifices pour maintenir 2, 3, 4 ouvriers, 5 ouvriers, comme ça, n'est-ce pas, pour sauver l'honneur du pavillon. Et il est venu me trouver. Et il m'a dit, je ne peux pas croire à la mort de la tapisserie. Et nous nous sommes très vite entendus. Et la première tapisserie que j'ai faite avec lui, 18 mètres carrés, n'est-ce pas ? Parce que j'ai dit, la tapisserie ne peut recommencer que si elle est grande, et si, c'est ce que j'appelais avoir sa dignité, retrouver sa dignité. Ben mon Dieu, j'ai eu une chance. Elle était à peine terminée que je la vendais à un grand musée américain. Ça a quand même sustenté et donné une fameuse confiance, n'est-ce pas, à cet homme. On s'est fait confiance réciproquement, on s'est mis en route, et le résultat, eh bien maintenant il y a, je crois, 66 ouvriers. C'est le tapissier quand même de la ville d'Aubusson le plus important, et ça tourne rond, très rond même.
Thomas Boll, vous êtes l'un des commissaires de l'expo Jean Lursa ici au Gobelin. En quoi est-ce que Jean Lursa a marqué l'histoire de la tapisserie d'Aubusson ?
Alors Jean Lursa, c'est un artiste extrêmement important pour l'histoire de la tapisserie d'Aubusson. Il a été missionné par l'État. L'État, en 1939, souhaite redynamiser les ateliers d'Aubusson. Ils font appel à Jean Lursa, mais également à d'autres artistes comme Marcel Gromer. Et ces artistes vont réaliser ce grand projet de tenture sur le thème des quatre saisons. Et ce qu'il est intéressant de noter, c'est que Lursa va vraiment inventer un langage propre à la tapisserie pour renouveler un thème extrêmement traditionnel. Donc il va, pour la première fois presque, penser tapisserie. Donc on voit qu'il abandonne complètement l'idée que la tapisserie doit imiter la peinture. Lursa va estimer que l'âge d'or de la tapisserie, c'est le Moyen-Âge, c'est la grande tapisserie médiévale dans laquelle on ne cherche pas à imiter la nature avec des illusions de perspective ou à représenter de manière extrêmement nuancée les modelés des visages des personnages pour traduire une illusion de troisième dimension. Au contraire, selon Lursa, la tapisserie médiévale est un art qui fonctionne sur des oppositions chromatiques très fortes. On le voit d'ailleurs ici avec cette tapisserie des quatre saisons où on a une gamme de couleurs très restreinte qui fonctionne surtout sur des oppositions entre des jaunes extrêmement vifs, des verts, des marrons, un petit peu de rose, mais c'est à peu près tout.
Jean Lursa finalement abandonne cette technique de peindre des cartons et met en place une technique propre à lui qui est un petit peu contraignante pour les lissiers.
Effectivement, par rapport à ses premiers cartons de tapisserie, Lursa va remettre au goût du jour une technique qui existait déjà mais qui avait été relativement peu utilisée jusqu'à présent, qui est la technique du carton numéroté. Lursa va numéroter chacune des couleurs et en quelque sorte priver les lissiers du travail d'interprétation qu'ils devaient faire jusqu'à présent. Les lissiers sont cantonnés à un simple rôle d'exécution.
Alors vous-même, justement, qui étiez un excellent ouvrier puisque faiseur de chair, Cette simplification, donc ce recul de compétences de l'ouvrier, comment vous l'avez ressenti, vous ?
Eh bien, au début, je renaclais un peu. Au début, je renaclais. J'y croyais pas. Et puis tout de même, j'ai vu que l'URSSA faisait repartir les ateliers de tabac qui chômaient. C'est lui qui assurait la paye des ouvriers à l'époque. Alors tout de même, devant la réalité, je me suis incliné. J'ai compris que c'était ça la vérité. Puis tout de même, l'URSSA, ça vous prenait, hein, il n'y a pas de doute. C'était autre chose, c'était gai, c'était vif, c'était autre chose que la copie d'ancien.
C'est ça.
Et jusqu'à la fin de la guerre, l'URSSA va continuer à travailler à Aubusson. Il va notamment travailler avec les différents ateliers privés. Donc il va, malgré la guerre, tisser des tapisseries très fortes, qui ont une dimension politique pour certaines extrêmement affirmée. Il n'hésite pas à tisser une grande tapisserie, celle qu'on appelle Liberté. Liberté qui est un hommage au poème d'Éluard, qui avait été parachuté par la Royal Air Force pour soutenir la résistance. Autour d'un grand soleil, avec un coq au sommet, le coq, qui, à cette période, pour l'URSSA, symbolise l'espoir et la résistance.
J'ai été élu député en 58.
André Chandernagor.
Alors j'arrive en plein dans ce qu'on appelait la révolution de l'art de la tapisserie. Au départ, l'URSSA, qui alors, sur le plan artistique, trouve l'acquis de Mingona, qui était directeur de l'École nationale d'art décoratif à ce moment-là, et qui a trouvé le moyen de rendre poétique des éléments pris à la tapisserie du XVIIe des grandes verdures, mais la magnifier dans la représentation picturale. L'URSSA va s'emparer de ça et va y ajouter une dimension à la fois poétique et cosmique. Il a apporté aussi autre chose, l'URSSA. Il a apporté au départ une clientèle. L'URSSA est un résistant pendant la guerre et il est très proche du Parti communiste, il est même probablement communiste. Bon. Il faut voir qu'au lendemain de la guerre, le Parti communiste a failli tout envahir. Hein, ça a été à deux doigts, bon, ça n'aurait pas pu arriver parce qu'il y avait les Américains. Bon. Mais ils se sont emparés à la libération de la quasi-totalité des leviers de commande de la culture. Alors l'URSSA était communiste. Son frère, André l'URSSA, dont personne ne parle, mais on a tort, parce qu'il était architecte, et connu avant son frère. Et par l'intermédiaire de son frère, il a les commandes de toutes les municipalités communistes, notamment de la région parisienne, qui, au lendemain de la guerre, ont à reconstruire des écoles, des mairies, etc. Et là, il va avoir un réservoir de commandes qu'il va utiliser à fond. Ce qui explique que tous les peintres cartonniers qui vont venir derrière, hein, Picard Ledoux, Saint-Saëns, tout ça va être communiste. Et ils sont là derrière l'URSSA, ils prennent les commandes. Mais ça provoque un extraordinaire renouveau de l'art de la tapisserie. Et alors, vous allez avoir des tapisseries comme celle-là.
Moi, je vous emmène dans ma chambre, alors là...
Oui, je vais fermer les... Vous voulez faire
ciel, oui, je vais l'ouvrir, Vous
voyez ? Alors, c'est celle de Julien. Bon, ça s'appelait Julien, là, je vous avais parlé, là. Donc là, il faut l'avoir là-bas, hein. Il appelle ça harpe éolienne. C'est le vent qui, et les nuages qui font fonctionner la harpe. Voilà. C'est la poésie, c'est une merveille de couleurs. Il a harmonisé, mais ça il savait très bien faire, il a harmonisé du vert, du brun, de tout le... Voilà, ça c'est...
Thomas Boll, Jean Lursa s'occupe de tout. Il s'occupe de tout, même du rayonnement de la tapisserie d'Aubusson dans le monde.
Oui, effectivement, c'est un des grands ambassadeurs de la tapisserie à l'étranger. D'ailleurs, le Mobilier National lui commande beaucoup de tapisseries afin de les déposer dans des ambassades. Ici, vous avez un grand tapis qui a été commandé pour l'ambassade de France au Japon, tapis Soleil du Japon, tissé à la manufacture de la Savonnerie. Pour Aubusson, il va aussi solliciter les pouvoirs publics afin de négocier des tarifs de douane avantageux avec les États-Unis, puisque au sortir de la guerre, les collectionneurs américains sont relativement friands de tapisseries d'Aubusson.
Qu'est-ce qui va faire que finalement l'URSA n'a plus envie à un moment de travailler avec les manufactures nationales ?
L'URSA va beaucoup en vouloir aux manufactures d'avoir continué à travailler pour le régime de Vichy. Elles ont même tissé pour le régime nazi. Et l'URSA, après-guerre, va véritablement vouloir s'impliquer pour Aubusson. Il préfère justement travailler avec tous ces ateliers qui ont souffert de la crise économique et avec lesquels il avait tissé tout au long de la guerre. Du coup, les manufactures nationales et le mobilier national sont un petit peu embêtés après la guerre, puisque on ne peut vraiment pas passer à côté de l'URSA en 45, 46, 47. C'est l'artiste qui a créé ce nouveau langage avec d'autres. Il a tendance même à éclipser les autres artistes qui ont participé à ce renouvellement de la tapisserie. Et l'État va néanmoins parvenir à travailler avec l'URSA, mais de manière un petit peu détournée. Plutôt que de faire tisser des œuvres de l'URSA au Gobelin ou à la manufacture des Beauvais, l'État va lui passer des commandes publiques, mais tissées cette fois-ci à Aubusson. D'une part, ça permet aux manufactures nationales et surtout au mobilier national d'acquérir des œuvres importantes de l'URSA. Et d'autre part, c'est une manière pour l'État de soutenir un territoire en difficulté, de participer à cette reconstruction économique d'après-guerre.
À partir donc des années 60, quelle est la suite de l'histoire et vous, quelle est votre implication dans ce savoir-faire ?
Il y a une évolution des choses à laquelle, à ce moment-là, à travers la tapisserie, Aubusson a largement participé. Mon apport, c'est d'avoir voulu concrétiser tout ça le jour où j'ai créé le musée. Le projet du musée, c'est dans les années 75 à peu près. À ce moment-là, j'ai la chance d'être président du Conseil général. Bon. Et j'arrive à convaincre mes partenaires, c'est pas si simple, qu'il faut faire un effort culturel dans ce département, auquel les journaux parisiens reprochent toujours que c'est un département inculte. La Creuse, on ne peut pas le faire plus creux. Bon. Et je dis, il faut faire un effort. Et c'est là que j'ai fait faire à la fois l'École nationale de musique, la bibliothèque centrale de Prêt et le musée d'Aubusson. Bon. Et alors, on a fait ce musée qu'on a inauguré. Alors, entre-temps, je suis devenu ministre, ça c'est le hasard. Mais j'ai quand même tout conçu et construit étant dans l'opposition. Ce qui était quand même pas si mal. Et alors là, on a inauguré, c'est Mitterrand qui est venu inaugurer. Voilà. Alors c'est l'histoire du musée. Mais, quand j'ai demandé à la conservatrice du musée de Guéret de venir avec moi inaugurer le musée. Elle m'a dit, mais où sont les tapisseries ? Il n'y en a pas. C'est-à-dire que nous avons construit un musée sans collection. La collection était à venir, parce qu'on en achetait une par an. Mais comme j'ai découvert, quand je suis devenu président du Conseil général, qu'il n'y avait pas d'inventaire, allez savoir. Bon, à l'époque où on inaugure la nouvelle salle de réunion du Conseil général, je viens d'arriver comme conseiller général. C'est le conseiller général d'Aubusson, le père Poli, qui préside. Si nous faisions faire une belle reproduction de la Dame à la licorne. Et je prends la parole, je dis, monsieur le président, je ne consentirai jamais à me laisser enlicorner au XXe siècle. Nous avons des peintres cartonniers remarquables. Picard le Doux, l'URSA, etc. C'est à eux qu'il faut demander une tapisserie qui la conçoive pour cette salle. Et j'ai gagné. Et c'est comme ça que vous avez de très bons Picard le Doux dans cette salle. Bon, mais vous voyez, il fallait moderniser les esprits aussi.
Et alors, il y a une question qui me tarabuste, moi. Est-ce que vous ne trouvez pas une certaine injustice à ce que le nom du lycier figure pas sur la tapisserie ?
Ben écoutez, quand il y a 5 ou 6 ouvriers qui travaillent sur une grande pièce, S'il faut mettre les noms des 5 ou 6 ouvriers dans la bordure, hein, alors ça va. Puis non, puis le tapissier, c'est jamais considéré comme un créateur.
Au Gobelin, on signe.
Ah oui.
Vous reconnaissez bien, cependant, qu'il y a des bons et des moins bons ouvriers.
Eh oui, bien sûr.
Oui.
Vous savez, pour quelqu'un qui n'est pas connaisseur, une tapisserie mal tissée, des fois, a un certain charme. Surtout si c'est un Lursa.
Oui.
Un Saint-Saëns, c'est pas pareil, si on prend ces deux cas.
Oui.
Parce que Saint-Saëns, si les formes souffrent, ça se connaît. Mais chez Lursa, vous pouvez déformer, ça n'a pas d'importance.
Mm-hmm.
Je crois, hein, Jean.
Absolument, c'était morcelé, justement.
Oui, hein, oui.
On peut se demander si ça ne rajouterait pas une qualité à cette œuvre unique que de savoir qui y a palpé de ses doigts, si vous voulez.
Il faut avoir un nom en résonance nationale, au moins.
Mmh.
Mangona était un artiste, mais il n'avait pas un nom à résonance nationale, sans lui enlever ses qualités.
Mmh.
Il n'avait jamais fait le tintamarre que Lursa a fait.
Oui.
Vous savez ce que disait Saint-Saëns de Lursa ? Il disait, c'est le Barnum de la tapisserie. Il avait un accent méridional. Il a été patent pour ça.
Aubusson, au fil des siècles et des moutons. Avec Bruno Itier, André Chandernagor, François-Odile Perrin-Crinière, Thomas Boll, Nicole de Passy-Chevalier, Thierry Terrade. Merci aussi à Emmanuel Gérard, l'atelier à deux à Aubusson, Patrick et Marie Guillot, Karine Ringlet et Jocelyne Alain. Prise de son, Antoine Blanchon, mixage, Jean-Louis Deloncle. Un documentaire de Stéphanie Thomas et de Anne Fleury.
Comme d'habitude, cette émission peut être réécoutée sur le site de France Culture, www.franceculture.fr, où vous pouvez également la télécharger pendant un an après sa diffusion. Et puisque nous parlons de patrimoine et de journée européenne du patrimoine, qui sont les prétextes à cette série de la Fabrique de l'Histoire sur les politiques patrimoniales, eh bien, sachez que la Maison de la Radio participe, notre maison participe à Paris, donc à ces journées européennes du patrimoine, qu'il y aura des concerts pendant tout le week-end, des visites guidées de la Maison de la Radio, des jeux de piste, également l'écoute de ce qu'on appelle le cinéma sonore, c'est-à-dire des émissions en 3 dimensions spatialisées. C'est donc à la Maison de la Radio tout le week-end pour les journées du patrimoine. Vous pouvez vous renseigner en allant sur le site maisondelaradio.fr, maisondelaradio.fr, pour avoir tout le programme de ces journées du patrimoine à la radio.